Question, comment amène-t-on les personnes à se déplacer toujours davantage? Eh bien, par un certain type d'urbanisme qui est en vigueur dans nos pays depuis plusieurs décennies. Les transports, ils ont cette caractéristique qui façonne les territoires, l'urbanisme, les modes de vie, et en retour, ils sont façonnés par eux. Après la Seconde Guerre mondiale, on a mis en place, pas seulement en France, mais dans presque tous les pays d'Europe, ce qu'on appelle un urbanisme fonctionnaliste. C'est-à-dire qu'on a pratiqué ce qu'on a appelé le zonage. Les logements en périphérie, les emplois tertiaires, c'est-à-dire les emplois de bureau dans les centres-villes ou dans les banlieues éloignées, les commerces sous forme de grands centres commerciaux dans d'autres banlieues. Ces orientations de politique d'urbanisme et d'aménagement du territoire ont obligé les citadins à augmenter considérablement leur distance de parcours et à accroître leur déplacement quotidien, notamment domicile-travail. Ça, je crois que vous le savez. Par ailleurs, la colonisation des centres-villes par les bureaux a fait augmenter le prix des logements dans les centres-villes, avec pour conséquence de réserver ceux-ci aux ménages aisés et d'envoyer toujours plus loin les ménages disposant de moins de moyens. Et ainsi, on a encouragé la ségrégation sociale. Je ne vous fais pas de dessin avec les problèmes qu'il y a eu récemment dans les cités de banlieue. On a encouragé l'étalement urbain sous la forme de ce qu'on appelle la périurbanisation à la californienne. Hein. Mais la conséquence de tout ça, c'est que comme l'habitat dispersé se prête très mal au dessert par les transports en commun, la motorisation de masse, c'est-à-dire la possession par chacun d'une bagnole, est une réponse obligée à ce type d'urbanisme. Donc les politiques d'urbanisme menées depuis 50 ans, on peut dire, ont tout fait pour imposer l'usage de l'automobile. Et puis au-delà du milieu du XXe siècle, puisque je disais que ces politiques avaient surtout été mises en place après la Seconde Guerre mondiale, les politiques d'aménagement du territoire national ont été conduites selon les mêmes principes. On a divisé le territoire en zones de développement agricole, en zones industrielles, en zones de développement commercial, en zones touristiques, en séparant les fonctions. C'est pour ça qu'on appelait ça le fonctionnalisme. Mais du coup, ça sous-estime la cohésion territoriale, les contraintes de la géographie et les nuisances des transports. Et le corollaire de cette politique a donc été une vigoureuse politique autoroutière qui était censée, je le mets entre guillemets, favoriser le développement rural, c'est ce que disaient les technocrates, et, toujours entre guillemets, désenclaver les territoires. Un des principes essentiels qui a guidé l'aménagement du territoire depuis 50 ans, c'est que l'irrigation par de grandes infrastructures de transport garantit son développement. Et au contraire, s'il n'y a pas de grandes infrastructures, le territoire est condamné. Ben, tout ça, c'est absolument pas prouvé. Et on peut même citer de nombreux contre-exemples qui montrent qu'une grande infrastructure, elle ne développe pas un territoire, elle a au contraire un effet de pompe, c'est-à-dire qu'elle va vider les zones peu denses lorsqu'une autoroute améliore la liaison entre celle-ci et un grand centre. Les gens vont avoir tendance à aller se distraire, faire leurs courses dans le grand centre, et au contraire, on va vider les territoires ruraux, et c'est ce qui s'est produit. Et donc, finalement, à l'expérience, le développement socio-économique par les infrastructures de transport, on peut dire qu'il relève beaucoup plus du slogan que de la réalité. Même si, dans certains cas, ça se vérifie. Hein. Je ne dis pas que ça ne se vérifie jamais. Mais en revanche, il est certain que multiplier les infrastructures de transport, ça facilite et même ça suscite les déplacements. Je ne sais pas si vous savez, si on compte aujourd'hui les autoroutes payantes, mais aussi les autoroutes gratuites, qui par exemple autour des grandes villes, comme le boulevard périphérique à Paris, etc., et puis les liaisons qui ont complètement des caractéristiques autoroutières, on est à 12 500 km d'autoroutes en France. Hein on rencontre encore des hommes politiques qui vous disent aujourd'hui le réseau autoroutier français est en retard par rapport à la densité des réseaux autoroutiers de certains autres pays européens. On cite notamment l'Allemagne. Alors si on regarde par rapport à la taille du territoire, on n'est plus tellement en retard, mais si on regarde par rapport à la population, on est en avance. Par rapport à la population, nous sommes maintenant un des pays européens qui ont la plus grande densité autoroutière. Mais on a toujours des hommes politiques qui raisonnent comme à l'époque où on n'avait pas beaucoup d'autoroutes. Aujourd'hui, on a 12 500 km. Dans les années, fin des années 60, il y en avait 6 000. En 30 ans, fin des années 70. En 1970, donc fin des années 60. Donc on a doublé en 30 ans la longueur de réseau autoroutier. Alors, pour se dispenser de toute démonstration, le discours dominant pose comme axiome que l'augmentation des transports, c'est indispensable à la croissance économique, et d'ailleurs, cette croissance économique elle-même, elle n'est jamais remise en question en tant que condition nécessaire et suffisante au bien-être. Mais en réalité, je voudrais insister sur ce point, l'accroissement des déplacements n'est pas un fait inéluctable, c'est une caractéristique du stade actuel néolibéral du capitalisme. Et c'est un peu le titre de ce transparent, comment on transfère des coûts privés vers la collectivité? Eh bien, en multipliant les transports de marchandises.